nous retrouvons donc Damien. Bonsoir Damien.
Bonsoir.
Alors, racontez-moi, vous riez. Vous ne vous attendiez pas à être à l'antenne si rapidement, c'est ça?
Si, mais en fait, on s'est juste parlé en même temps, c'est pour ça.
Ah, d'accord. Bon.
Mais, voilà. Donc, je suis très content de pouvoir exposer un petit peu mon histoire.
Alors, racontez-moi. Quelle est-elle, cette histoire?
Eh bien, écoutez, en fait, moi, j'ai été victime de viol durant 8 années, en fait, de mes 8 ans jusqu'à mes 16 ans, de mon demi-frère, en fait. Donc, on va dire que tout a commencé comme ça, et l'histoire s'est prolongée, en fait, du fait de mon combat en justice et du travail que j'ai effectué sur moi-même, on va dire, pour me reconstruire et pour avancer, quoi.
Et alors, d'abord, vous avez pu vous battre, justement, d'un point de vue judiciaire, à partir de quand? Quand est-ce que vous avez pu révéler ça? Est-ce que pendant tout ce temps, vos parents étaient au courant? Est-ce que vous avez
non,
pu...
personne. Alors, en fait, personne n'était au courant. Alors, tout s'est arrêté à mes 16 ans quand je l'ai, on va dire, menacé d'en parler. Mais ensuite, tout a été mitoté. Moi, j'ai fait, on va dire, un gros déni, comme beaucoup de victimes. Et j'en ai, en fait, jamais parlé. J'ai décidé d'en parler il y a environ 6 ans, quand j'ai appris qu'il y avait une autre victime, en fait.
De ce même demi-frère.
Voilà, tout à fait.
D'accord.
Donc, c'est là que j'ai décidé d'en parler, parce que j'ai eu, on va dire... un certain sentiment de culpabilité en me disant que si j'en avais parlé plus tôt, ça aurait pu peut-être éviter une victime. Enfin, en tout cas, c'est le ressentiment que j'ai eu à l'époque.
Bien sûr.
Donc voilà. Et pour moi, il était important à ce moment-là de faire mon devoir, on va dire, et d'empêcher ce criminel de poursuivre et voilà, éviter qu'il y ait d'autres victimes.
Il a combien de plus que vous? Votre demi-frère?
Plusieurs années, je ne sais même plus exactement, ça fait un petit moment que j'ai plus de contact avec, mais je ne sais plus, 6 ans, je crois, quelque chose comme ça.
6 ans de différence, d'accord. Et ouais. Il a été, finalement, la justice vous a donné raison et vous a protégé, il a été inculpé.
Oui, alors après un très long combat, tout d'abord au pénal, le jugement a été rendu récemment, puisqu'il a été rendu en novembre 2020.
Ah oui.
Et au civil, en fait, on a eu le jugement au civil il y a quelques jours seulement. Donc,
c'est
une procédure qui a duré quasiment 6 ans, alors qu'on n'est pas allé aux assises. Hein. Comme beaucoup de victimes, le crime a été requalifié en délit. Et, donc, voilà,
et quand vous dites « on », c'est vous et l'autre victime?
Oui, alors moi et l'autre victime qui se trouvait de ma famille, en fait, et en fait, on a tout au long de la procédure pu voir qu'il y avait eu 2 autres victimes également. En tout cas, c'est tout ce que les forces de l'ordre ont pu trouver, donc ce qui fait quand même 4 victimes au total, ce qui est déjà pas mal.
Ah bah oui. Bah de toute façon, une, c'était déjà trop, et même si ça avait été une qu'un soir ou qu'un jour, ça a duré 8 ans, c'est absolument épouvantable. Et votre alors c'est le demi-frère du côté paternel ou maternel?
Alors du côté maternel.
D'accord. Et votre maman comment s'est-elle positionnée dans tout ça quand elle a ses 2 enfants qui se retrouvent en pareille situation? Comment vous êtes-vous sentie,
en fait,
soutenue par elle ou pas?
Ben, ma maman a eu 3 enfants, en fait. Elle en a eu 2 d'un premier mariage, puis moi, en fait, au second mariage.
Mm-hmm.
Donc elle a été au courant qu'il y a quelques années maintenant, quand on a décidé de lui en parler.
Oui.
Ça a été très difficile.
Bien
C'est très, très difficile pour elle, pour moi également. Hein.
Bien sûr.
Dans sa position, on doit dire qu'elle a été assez... dans le sens que je l'espérais, hein. Elle a coupé tout lien avec son fils. Hein.
Mm-hmm.
Maintenant,
elle a pris position. Qui est en prison? Qui est en prison? Sera
non,
en prison?
Non, alors il a eu une condamnation d'un ferme.
Attendez, je n'ai pas très bien entendu. Il a eu, puis après ça a bugué.
Il a été condamné à un an ferme,
Un enfer, d'accord.
mais aménageable. Donc, en fait, il a eu simplement un bracelet électronique, quoi.
D'accord, ok.
Voilà.
C'est un peu
Donc, ce
faible
qui
tout
était
ça.
faible, mais en même temps, pas trop mal du fait qu'on ne soit pas allé aux assises et que le crime ait été requalifié en délit. Finalement, la peine, elle est au-delà de ce qu'on peut voir, de ce qu'on peut voir en temps normal. Donc je trouve que voilà. Après, c'est pas ce qu'on cherchait, hein, très franchement. Moi, c'était pas, je
C'était.
cherchais pas spécialement ce qu'il y a une peine de prison. Hein.
Bon, et comment, parce qu'on est très loin des faits, puisque vous avez 34 ans, comment vous vous sentez aujourd'hui eu égard à ce jugement qui vient enfin de se faire? Est-ce que ça a libéré quelque chose? Est-ce que ça libère votre
Oui.
parole là? Est-ce que ça vous a donné des ailes sur des sujets d'autres ou sur celui-là?
Alors ma parole, moi, s'est libérée en fait il y a quelques années quand j'ai décidé de sortir un mini livre en fait, on va dire, sur mon histoire que j'ai publié que j'ai auto-publié, mais que j'ai diffusé moi en fait sur mes réseaux, puisque en fait. Après le procès au pénal, le procureur a dit une phrase, a dit une phrase durant le procès qui m'a pas mal aidé, qui m'a dit: vous n'avez pas à avoir honte, vous êtes les victimes, vous n'avez pas à vous cacher, vous n'avez rien fait de mal. Et c'est quelque chose qui était important à entendre de sa part, et c'est vrai en
Absolument.
fait, c'est vrai.
Bien sûr,
Et en
bien sûr.
fait, voilà, moi j'ai écrit mon histoire à ce moment-là, je l'ai diffusée. J'avais plus rien à cacher, puisque finalement ce mensonge que je cachais, ou ce fait que je cachais, il avait plus lieu d'être finalement, donc je l'ai révélé. J'avais rien, voilà. Et ça a été plutôt une bonne chose, ça a été bien accueilli par beaucoup de monde, courage.
Bien sûr.
Et voilà, ça m'a, donc je me suis libéré à ce moment-là, et à la suite de ça, j'avais eu l'intention de créer une association justement de défense des victimes qui a été créée en fait en février 2020. Donc cette association qui s'appelle PSDVA, donc Prévention, Suivi et Défense des Victimes d'Agression. Et en fait, cette association donc a pour but d'aider les victimes dans leur procédure, qu'elles soient judiciaires, psychologiques, etc.
C'est-à-dire de les
Et donc,
accompagner, c'est de leur montrer le chemin qu'il ne leur faut pas courir, c'est quoi, cette aide,
oui,
elle consiste en quoi?
alors à plusieurs choses, déjà de les soutenir,
Bien
hein,
sûr,
parce que le
moralement.
chemin, il est, voilà,
Bien
le
sûr.
chemin est très différent pour tout le monde.
Bien sûr, bien sûr.
Donc déjà les soutenir, les aider, leur donner aussi les informations que beaucoup de victimes n'ont pas. Ça, on s'en est rendu compte au fil du temps. Beaucoup n'osent pas porter plainte après parce qu'ils pensent que c'est trop tard, alors que c'est pas forcément le cas. Des personnes ont peur de ce que ça peut aussi avoir comme impact sur eux ou sur leur famille.
Bien sûr.
Mais dans beaucoup de cas, les gens qui portent plainte, c'est le début d'un travail sur eux et c'est surtout le début d'une nouvelle vie en fait. On sort du déni en fait et on se rend compte à la fin qu'on est une victime. On n'a rien à cacher, on n'est pas, voilà, on n'est pas des monstres. Au
Bien sûr.
contraire. Donc c'est plutôt une bonne chose. Donc nous on les aide sur leur procédure. On essaie de faire du suivi de leur procédure parce que les procédures sont longues, lourdes, très difficiles. On essaie aussi de faire de la prévention également. C'est assez difficile à faire parce qu'on a créé un peu avant la période Covid, donc c'est un petit peu compliqué.
Bien sûr.
Mais en tout cas, voilà, on est là et on crie haut et fort qu'on aide toutes les victimes. Alors, je ne parle pas d'hommes, de femmes ou d'enfants, je parle de victimes parce que peu importe le genre des victimes, c'est des victimes justement et elles sont toutes égalitaires. Moi, je parle de mon combat parce que je me suis rendu compte en fait qu'il y a beaucoup d'hommes victimes, beaucoup plus qu'on ne pense.
Bien sûr.
Le problème, c'est que c'est en général des victimes qui ne parlent pas, qui ne portent pas plainte, voilà. Et pour moi, un viol qui soit commis sur un homme, une femme, un enfant, ça reste de toute façon atroce. Donc
Bien sûr, bien
voilà,
sûr. Il y a
toutes les victimes doivent être défendues et savoir comment se faire aider, quoi.
pas. Et d'ailleurs, nous vous communiquerons après l'antenne les coordonnées de Linda qui souhaite rentrer en contact avec vous, Damien.
Oui, il n'y a aucun problème, avec
Voilà.
plaisir.
Donc, j'ai retenu des mots qui me paraissent importants parce que je les entends souvent, qui sont les mots de déni, culpabilité et honte. Parce que, effectivement, dans le cadre dans ce genre de situation, quand l'enfant est surpris par une aventure qui ne correspond pas une seule seconde à l'expression d'un moindre désir ou ne serait-ce que d'une moindre curiosité, il se retrouve piégé et qui plus est quand il a en face de lui quelqu'un qui a de l'autorité, l'autorité du grand, à qui on veut plaire ou avec qui on veut rester en lien ou qui pourrait nous faire du mal ou qui pourrait dire qu'on a fait des bêtises. Et surtout quand il s'agit de sexualité, puisque un enfant, quand il a 8 ans, il est dans un temps, il vient de passer l'âge de raison et c'est un temps de pudeur. Il y a tout un temps dans l'enfance où l'enfant est assez exhibitionniste, assez curieux, parle beaucoup de sexualité, ça c'est plus jeune, mais à compter de 8, de 6-7 ans, il rentre dans cette période de pudeur importante. Il a tout à fait conscience de la sexualité, mais il la refoule parce qu'elle l'inquiète. Parce qu'elle est en train d'émerger, parce qu'il sait qu'il est un garçon ou qu'il est une fille. Donc c'est un moment où l'enfant a besoin qu'on le laisse tranquille dans ce refoulement. Et quand on vient l'agresser sexuellement, que ce soit simplement par les mots ou que ce soit par le toucher ou le passage à l'acte, donc il n'y a même pas de hiérarchie. Quand on vient le bousculer alors qu'il est dans un effort psychique important de refoulement, eh bien ça vient bousculer toute son organisation. Et l'enfant se sent tout d'un coup coupable de ce qu'il n'est pas arrivé à faire, c'est-à-dire coupable de ne pas être arrivé à refouler ce sexuel pour s'ouvrir à d'autres choses, d'autres curiosités et d'autres maturités en attendant l'âge adulte. Et donc la première des choses, c'est que l'enfant se retrouve victime parce que sa honte ou son sentiment de culpabilité d'être d'une manière ou d'une autre potentiellement responsable de ce qui est en train de se jouer, eh bien, fait que au lieu de voir l'agissant, c'est-à-dire le violeur, l'enfant se croit à l'origine d'une manière ou d'une autre, il ne sait pas très bien comment, agissant. Et du coup, il était tétanisé. Et tétanisé, eh bien, il ne bouge pas. Et comme il ne bouge pas, il renforce son sentiment de culpabilité et de honte, puisqu'il a l'impression que toute nouvelle aventure est du fait de ne pas avoir su l'arrêter. Et donc il est coincé au fur et à mesure dans cette position de victime.
Tout à fait. C'est ce que je vois, c'est ce que je ressens et c'est ce que chez beaucoup de victimes, effectivement. C'est, comme vous le dites, des mots qui reviennent souvent, ces sentiments de honte, d'impuissance aussi, de culpabilité quand bah, au moment de l'acte, mais aussi par la suite, et souvent pour de nombreuses années, et dans des cas où on a conscience que les criminels ont fait d'autres victimes, on a encore plus ce sentiment de culpabilité.
Oui, il y a même des enfants. Vous voyez, vous avez réagi quand vous avez perçu qu'un autre enfant pouvait le subir. Donc, c'est bien la preuve que vous sentiez bien que ça n'était pas du tout sa place.
Bien
Mais
sûr.
il y a des enfants qui sont capables. J'ai pu voir des situations où des enfants finalement acceptent leur sort pour protéger les autres, les plus jeunes. Et si par contre ça vient atteindre les autres, alors là ils réagissent. Mais ils se laissent, et c'est un peu ce que vous racontez, c'est-à-dire tant que ça ne concerne que vous, vous êtes prisonnier de votre honte, vous vous organisez avec une sorte de déni pour vous protéger. Mais ce n'est que quand un autre enfant est atteint que tout d'un coup, eh bien, il y a une urgence de protection de l'autre qui réveille votre possibilité de protection vous-même.
Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Et c'est vrai que ce sentiment de culpabilité, en général, déclenche des réactions, ce qui est au final une bonne chose, hein. Et d'ailleurs, moi, je joue beaucoup là-dessus avec les victimes qui me contactent dans l'association quand elles hésitent à porter plainte ou à faire ou à révéler ce qu'elles subissent. C'est justement de leur dire que même si elles ne le font pas pour elles, finalement, elles le font aussi pour d'autres.
Bien sûr.
Et c'est ça, en fait, qui est souvent déclencheur de procédures, parce que, certes, on veut se reconstruire, c'est important pour nous, hein, mais c'est important de sauver les autres. C'est toujours plus fort, ce sentiment, de se dire qu'on va aider quelqu'un, plutôt que de se dire qu'on est une victime et que finalement on vit avec. Donc à quoi bon lancer une procédure qui va
Bien
réveiller
sûr.
des souvenirs, qui va être douloureuse. Voilà, c'est très compliqué, hein. Et en France, du côté de la justice, c'est très 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 compliqué.
Bien sûr.
Voilà, moi
Alors,
je suis pas je termine juste là-dessus, parce que moi je
oui,
suis
bien
pas
sûr.
passé en procédure aux assises, parce qu'on m'avait dit que c'était long. Et moi, quand je vois qu'en procédure classique, on va dire délictuelle, on est déjà sur des procédures qui durent 6 ans quand même.
Oui, c'est énorme.
Donc
C'est énorme.
voilà, c'est énorme.
Et c'est un matraquage, bien sûr, psychologique important. Damien, restez avec nous, s'il vous plaît. On fait une pause pub et on continue parce qu'il y a des choses importantes encore à dire.
Catherine Blanc est à votre écoute sur Europe 1.
Damien, vous êtes toujours là?
Oui.
Alors, je voulais, vous avez dit quelque chose qui est important, effectivement, souvent pour aider les victimes à porter plainte. C'est vrai que l'argument, c'est penser que cette personne, elle le court toujours, qu'elle pourrait faire du mal à l'autre. Et c'est souvent ce qui fait le déclenchement de la prise de position. Et à la fois, moi, je me suis longtemps, puisque je l'ai dit moi-même, cette phrase, j'ai invité à réfléchir, j'allais dire, la cause du groupe. Et à la fois, je réalise aussi combien ce peut être parfois un poids que l'on fait porter à la personne qui déjà a été victime, a peur d'être victime encore du jugement, puisque avoir affaire à la justice, on va juger de ce qui est grave, pas grave. Et c'est un risque, c'est un risque aussi que la justice ne soit pas juste.
Bien sûr.
Et donc, du coup, il y a une grande peur d'être encore plus étiquetée dans une quelconque responsabilité ou de l'histoire, en quelque sorte. Et souvent, on dit, mais vous ne le faites pas que pour vous, vous le faites pour les autres. Et comme si on risque toujours un peu de culpabiliser, de ne pas vouloir sauver l'autre. Alors, il y a ceux qui, comme vous, pour sauver l'autre, je crie enfin l'impossible, je crie enfin l'horreur. Et puis, il y a ceux qui n'arrivent pas à porter avec eux le devoir d'être encore une fois victime d'un système sans quoi les autres seront atteints. Vous voyez, c'est toujours un truc qu'il faut faire avec des pincettes, qu'il faut prendre avec des pincettes, parce que dire que ce peut être aussi une occasion ne veut pas dire il faut le faire parce que sinon c'est toujours la victime qui doit continuer à porter le lourd poids, tribut et devoir pour lui, pour la communauté, comme il s'est tu pour la communauté, pour pas bousculer les familles, pour pas faire la honte ou mettre la honte sur la famille. C'est toute la problématique de la victime, hein, bien sûr.
Oui, c'est tout à fait ça. Après, en tant que victime, on a aussi cette protection, hein, qui est le déni pendant
Bien
en
sûr.
général plusieurs années, qui est une
Et qui peut aller
protection.
jusqu'à vraiment un total oubli, hein. Il y a
Tout à fait.
des personnes vraiment qui ont complètement oublié. C'est au détour d'événements dans la vie que se font les associations d'idées et que petit à petit ressurgit l'histoire.
Voilà, soit il y a des vraies associations où on arrive à se rappeler ou à se rendre compte qu'il y a un problème, soit c'est des troubles psychologiques, que ce
Oui, ce sont
soit
des
des
symptômes
troubles psychiques. Voilà.
qui amènent au fait
Voilà.
qu'on va consulter pour un symptôme sans trop comprendre le sens du
Voilà.
symptôme. Et petit à petit,
Exactement.
l'histoire elle se dénoue.
Oui, tout à fait. Après, c'est vrai que dans tous les cas, ça reste quelque chose, un choix difficile, hein, de toute façon,
Bien sûr.
de faire une procédure ou non. C'est pour ça qu'on a des personnes qu'on accompagne plus vers des suivis médico-psychologiques plutôt que vers des procédures judiciaires, soit parce que c'est des personnes qui sont plus âgées, qui ont été victimes il y a des fois 40, 50 ans, hein. Voilà, on va plus, je vais pas dire pousser, parce qu'on n'oblige pas les gens à faire quoi que ce soit, mais on va plus, voilà, diriger les gens vers des procédures judiciaires quand elles sont plus jeunes, ou quand les agresseurs sont proches, bien sûr. Bah, surtout quand les agresseurs sont proches et que les personnes vivent encore avec. Hein. On a beaucoup d'enfants avec qui on a l'occasion de parler parce que voilà, on est présent sur les réseaux sociaux et on est très accessible.
C'est les formidable. Enfants,
maintenant, oui, bah, et de plus en plus jeune, maintenant il est plus facile de parler. Et c'est ce qu'on veut dire aux enfants aussi, c'est que la plupart du temps, quand ils ont une victime, comme vous disiez tout à l'heure, c'est soit des ascendants ou des personnes proches hein, de la famille. Mmh. Le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas parler à la famille parce qu'un enfant, si on ne le croit pas, la plupart du temps, il y a une défense qui fait que l'enfant n'en parlera pratiquement plus jamais.
Bien sûr.
Donc, il ne sait pas trop vers qui s'orienter. Souvent, on se rend compte qu'ils s'orientent vers leur maîtresse d'école. Le problème, c'est que dans les écoles, ils ne savent pas trop comment gérer ça.
Oui, parce qu'il y a souvent aussi des dénis des parents. Pas parce que les parents ne veulent pas protéger leur enfant, mais parce que c'est souvent inimaginable.
Ils ne veulent pas y croire.
Bien sûr. Inimaginable,
bien sûr. Et c'est très souvent le cas. Et le problème, c'est que les parents, comme la plupart des gens, en fait, ne savent pas déceler les signes que les enfants peuvent montrer, peuvent indiquer qu'il y a un problème. Moi, en tant que victime, à force de les côtoyer, je ne vais pas dire que c'est un sixième sens, mais j'arrive à les déceler bien plus facilement maintenant. Une personne avec qui je vais parler, et je vais me dire qu'il y a un truc qui ne va pas. Mmh. Et, parce que je reconnais des choses que des victimes font, des petites manies ou des façons de se comporter sur tel ou tel sujet. Mmh. Donc, le problème, c'est que les victimes paraissent tout à fait normales et heureusement. Donc, du coup, si on n'est pas à l'écoute, on s'en rend vraiment pas compte. Mais voilà, si on avait un peu plus si on avait des personnes qui pourraient expliquer un petit peu à quel point il faut être attentif du mal-être de leurs enfants, ou des amis, ou des proches, on pourrait peut-être agir plus tôt et mieux.
C'est tellement, vous avez complètement raison, mais quand on a vécu les choses, on a ce sixième sens particulièrement développé, quand on a un métier qui alerte, on est aussi extrêmement rapidement attentif. Que ce soit les gens qui travaillent avec l'enfance, comme les instituteurs, pour certains sont très attentifs, parce qu'ils voient bien un enfant qui ne va pas bien par rapport à un enfant qui va bien, ou les médecins, ou les psys, etc. Mais pour les parents, c'est tellement difficile d'être parent, c'est tellement difficile de savoir quand l'enfant fait un caprice, ou quand l'enfant n'est pas bien, quand l'enfant veut attirer l'attention, ou quand l'enfant appelle au secours. C'est tellement compliqué pour les parents eux-mêmes, encombrés par leur histoire, peut-être même égoïste, mais c'est l'ADN de l'être humain. Et effectivement, c'est pour ça qu'il est merveilleux qu'il y ait des associations comme la vôtre. D'abord parce que je trouve formidable que vous soyez sur les réseaux, parce que comme la jeunesse est beaucoup sur les réseaux et que justement elle est désinformée quant à la sexualité parce qu'elle a accès à la pornographie, c'est intéressant aussi que vous existiez en contre-pouvoir à toutes ces désinformations et que vous donniez une possibilité de faire entendre qu'il y a des choses qui ne sont pas normales et qui sont douloureuses et qui sont à dénoncer, si ce n'est à la justice, en tout cas à l'autorité parentale, si bien sûr la violence ne vient pas de ce côté-là, ou sinon à une autre autorité qui puisse protéger. Ce qui est très difficile, hein, parce que alors quand en plus c'est un parent, vous pensez bien que trouver l'autorité auprès de qui se confier, quand sa vie dépend de toute façon de ses parents, est encore un exercice de style encore plus compliqué. Mais donc donc c'est formidable que vous ayez créé cette association, formidable aussi parce que vous n'êtes justement pas du côté ni de la justice, ni d'une institution avec des codes, avec des obligations de passer par tel et tel détour, telle et telle évaluation. Donc on est de l'humain avec l'humain, qui se donne la main, qui s'accompagne dans un chemin difficile. Et ça, c'est vraiment formidable. Je trouve important que ce soit justement pas des professionnels, que ce soit une association, quitte à ce que vous vous renseignez, vous formiez pour être plus juste encore et encore, mais pas au nom de professionnels, mais vraiment comme un grand frère bienveillant quand il y en a qui ne le sont pas, justement.
Oui, bah c'est exactement ça. Et moi, je me suis donné cette force de me dire qu'en fait, mon histoire, mon vécu, c'est la première fois où je me suis dit, en fait, ça a quelque chose de positif. Parce que ça va me permettre de comprendre les gens et ça va me permettre de faire quelque chose de bien. Alors qu'en tant que victime, en fait, on n'y voit jamais rien de positif.
Bien sûr.
Et en fait, moi, c'était pour la première fois de me dire, bah là, en fait, je vois un intérêt à ce que j'ai vécu. C'est bizarre à dire, hein, mais,
non, mais, vous avez...
mais c'est important.
Mais absolument, je crois que c'est... sinon, on est définitivement, j'allais dire, défiguré par l'histoire. Et si, oui. si on sait faire de l'histoire une occasion merveilleuse, une force formidable, une ouverture, une intuition forte, eh bien, d'un seul coup, vous avez enlevé le pouvoir à ce frère, à ce violeur. D'ailleurs, on va enlever le terme de frère, puisqu'il y a tout sauf de la fraternité. Voilà, vous lui avez enlevé son pouvoir. Il a voulu vous détruire, il vous a permis d'être fort. Il vous a permis d'être lucide, il vous a permis d'être plus à l'écoute de tous ces petits frères et sœurs à droite et à gauche qui, comme vous, ont vécu des choses extrêmement douloureuses, petits ou grands d'ailleurs, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses douloureuses par des plus âgés, comme vous le disiez, des gens qui ont vécu des choses il y a près de 40 ans et qui vivent encore malheureusement avec cela. Et donc ça, c'est formidable. Et je crois que ça, c'est un très joli mot qu'il appartient à chacun de bien retenir. Parce que comme ça, ça permet de ne pas rester enfermé dans l'état de souffrance et de victime. En tout cas, je vous remercie infiniment, Damien, de votre témoignage. Évidemment que pour tous ceux qui souhaiteraient retrouver les coordonnées de l'association, eh bien, la Libre Antenne est là pour leur communiquer. Merci infiniment.
Merci. Merci à vous.
Au revoir, Damien.
Au revoir. Merci.